L'équipe de France féminine de handball qui a parfaitement lancé sa défense du titre mondial. Les Bleus ont largement dominé la Tunisie 43-18 pour leur entrée en lice aux Pays-Bas. L'information de retour dans...
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission où je donne voix au roman de Jennifer Niven, Tous nos jours parfaits. La semaine dernière, nous avons été témoins de la rencontre de deux jeunes lycéens qui, sans s'y attendre, se sont mutuellement sauvés la vie. Violette, la pom-pom girl, et Finch, le fêlé. Deux jeunes à l'esprit brisé pour différentes raisons. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre, dès maintenant. Et aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur nos deux personnages. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Finch, sixième jour d'éveil, encore. À l'heure du déjeuner, tout le lycée est au courant que Violette Marquet a empêché Théodore Finch de sauter du haut du clocher. Alors que je me rends en cours de géo, je me retrouve derrière un groupe de filles qui discourt sur le sujet sans se douter le moins du monde que je suis le seul et unique Théodore Finch. Avec leur voix au perché, on dirait que toutes leurs phrases se terminent par un point d'interrogation. Ça donne. Paraît-il qu'il avait une arme? Et elle a dû la lui arracher des mains? Ma cousine Stacy, qui est au lycée de Newcastle, m'a dit qu'une fois, avec une copine, elles l'ont vu qui jouait dans un club de Chicago. Et il les a draguées toutes les deux. Moi, mon frère était là quand il a allumé les feux d'artifice. Et il paraît qu'avant que la police ne l'emmène, il leur a fait... Si je vois pas le bouquet final, je vais être remboursée. T'imagines ? Apparemment, je suis irrécupérable et dangereux. Ouais, exactement, je suis là, bien réveillée, et accrochez-vous parce que vous n'avez encore rien vu. J'ai entendu dire qu'il avait fait ça pour une fille. Je leur glisse avant d'entrer en classe d'un pas nonchalant. Je m'installe, moi, le tristement célèbre Finch, avec l'impression d'être invincible, regonflé à bloc, étrangement surexcité. Comme si je venais juste, d'échapper à la mort. Je jette un regard aux alentours, mais personne ne prête la moindre attention à moi, ni d'ailleurs à Monsieur Black, notre professeur, qui est littéralement l'homme le plus énorme que j'ai jamais vu. Il est toujours écarlate, au bord du coup de chaleur ou de la crise cardiaque. Et entre deux mots, il siffle comme une bouilloire. J'ai passé mon existence entière en Indiana, les années de purgatoire comme je les appelle, en ignorant que j'habitais à une quinzaine de kilomètres du point culminant de l'État. Personne ne me l'avait jamais dit. Ni mes parents, ni mes sœurs, ni mes professeurs jusqu'à ce jour précis, en cet instant capital où nous avons abordé le chapitre « Balade en Indiana », ajouté au programme cette année dans le but d'éveiller les élèves aux richesses historiques de leur état d'origine afin qu'ils puissent tirer fierté de leurs racines, sans rire. Monsieur Black s'effondre sur sa chaise en se raclant la gorge. Quoi de plus approprié pour entamer ce nouveau semestre que de le débuter par un point culminant ? À cause de sa respiration sifflante, difficile de déterminer si les informations qu'il nous distille l'enthousiasment vraiment. Hoosier Hill s'élève à 383 mètres au-dessus du niveau de la mer et est situé au fond du jardin d'une propriété privée. En 2005, un scout du Kentucky a obtenu la permission d'y créer un sentier et une aire de pique-nique, ainsi que d'y planter un panneau. Je lève la main, mais il m'ignore. Tandis qu'il continue à parler, je garde la main en l'air en me disant « Et si je grimpais là-haut ? Est-ce que la vue est différente quand on est à 383 mètres ?» Ça ne me semble pas très élevé, mais visiblement, il y en a qui en sont fiers. Et d'abord, qui suis-je pour décréter que 383 mètres, c'est que dalle, hein? Le prof finit par m'adresser un signe de tête, les lèvres serrées, comme s'il les avait avalées. « Oui, monsieur Finch ?» Il pousse un soupir digne d'un centenaire en me jetant un regard méfiant et plein d'appréhension. Je propose d'organiser une sortie scolaire. Il est capital de visiter les merveilles de l'Indiana tant qu'il est encore temps. Parce qu'au moins 3 personnes dans cette classe vont décrocher leur diplôme et quitter notre magnifique état à la fin de l'année. Et qu'en auront-ils tiré, à part une éducation au rabais dispensée par l'un des pires systèmes scolaires de notre pays? De plus, difficile d'imaginer un endroit pareil sans se rendre sur place, comme le Grand Canyon ou Yosemite. Il faut y être pour prendre toute la mesure de leur splendeur. Je ne suis qu'en partie sarcastique. Disons à 20%. Pourtant, M. Black réplique « Merci, M. Finch », sur un ton bien éloigné du remerciement. Je m'attelle à dessiner des collines dans un coin de mon cahier, en hommage au point culminant de notre état. Sauf qu'on dirait juste des gros tas en forme et des serpents volants. Théodore a raison. Certains d'entre vous vont partir du lycée à la fin de l'année pour aller ailleurs avant de quitter notre bel état. Prenez donc le temps de le découvrir, de l'explorer. Un fracas soudain l'interrompt. Une retardataire a fait tomber un livre et en voulant le ramasser, a laissé dégringoler toutes ses affaires. Ce qui déclenche l'hilarité générale, parce que nous sommes au lycée, que nous sommes donc ultra prévisibles et que la moindre occasion est bonne pour se marrer, surtout si c'est aux dépens de l'un de nos camarades. La fille qui a tout fait tomber, c'est Violette Marquet, la Violette Marquet du clocher. Elle est rouge et crevisse et je vois bien qu'elle voudrait mourir. Mais pas en se jetant d'un haut sommet cette fois, plutôt sur le mode « pitié que la terre s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse ». Je connais ce sentiment, mieux que ma mère, mes sœurs et Charlie Donahue. C'est le sentiment qui m'accompagne depuis que je suis née. Comme le jour où, en sport, je me suis assommée en faisant une tête devant Suze Haynes, ou la fois où j'ai tellement ri qu'un truc a jailli de mon nez pour atterrir sur Gab Romeo, et bien sûr, pendant toute la durée de la quatrième, de septembre à juin. Et donc, parce que j'y suis habituée et que cette violette est à 2 crayons de fondre en larmes, je flanque un de mes livres par terre. Tous les regards se tournent vers moi, je me penche pour le ramasser, en voyant volontairement valser tous les autres, dans les murs, les têtes, les vitres, et pour faire bonne mesure, je tombe à la renverse avec ma chaise. Ma performance est accueillie par des ricanements, des applaudissements, quelques fêlés et un sifflement exaspéré de la part de Monsieur Black. « Quand vous aurez fini, Théodore, j'aimerais poursuivre. » Je me relève, je redresse ma chaise et ramasse mes livres en faisant la révérence. Puis je salue à nouveau et je me rassis en souriant à Violette qui me lance un regard où la surprise se mêle au soulagement et à une certaine inquiétude. J'aimerais penser qu'il y a également une pointe de désir, mais ce serait prendre mes rêves pour des réalités. Je lui adresse mon plus beau sourire, celui qui me permet d'obtenir l'absolution maternelle lorsque je rentre tard ou simplement parce que je suis bizarre. Sinon, quand je surprends le regard de ma mère, les rares fois où elle ose poser les yeux sur moi, elle a l'air de se demander « D'où il sort celui-là? Il doit tenir de son père, c'est pas possible !» Violette me rend mon sourire. Je me sens instantanément mieux parce qu'elle se sent mieux et parce qu'elle me sourit. À moi, le pestiféré du lycée. C'est la deuxième fois dans la journée que je lui sauve la mise. Théodore au cœur tendre, comme me surnomme ma mère. Trop tendre pour son propre bien. C'est une critique et je la prends comme telle. Monsieur Black nous fixe tour à tour, Violette puis moi. Comme je le disais donc, votre travail personnel dans ce cours sera de présenter au moins 2, ou bien encore mieux, 3 merveilles de l'Indiana. Je contemple une autre merveille, Violette, concentrée sur le tableau, un vague sourire toujours aux lèvres. Monsieur Black explique que nous devons choisir les sites qui nous attirent le plus, peu importe qu'ils soient éloignés ou peu connus. Notre mission est de nous y rendre, de prendre des photos ou une vidéo, de creuser leur histoire et de rapporter dans un dossier ce qui, en ces lieux précis, nous rend particulièrement fiers d'être de notre état. Si nous parvenons à trouver un fil conducteur entre ces lieux, d'une manière ou d'une autre, c'est encore mieux. Nous avons tout le semestre pour fignoler le projet et rendre un travail sérieux. Vous vous mettrez par groupe de 2, cela comptera pour 35% de votre note. Je lève à nouveau la main. On peut choisir son partenaire? Oui. Alors je choisis Violette Marquet. Vous verrez ça avec elle à la fin du cours. Je me retourne instantanément, le coude sur le dossier de ma chaise. Violette Marquet, j'aimerais bosser avec toi sur ce projet. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « Tous nos jours parfaits » de Jennifer Niven. Bonne écoute. Elle rougit car tout le monde la regarde. Elle s'adresse au professeur. Je ne pourrais pas faire autre chose, des recherches et vous rendre un petit dossier. Elle ne hausse pas le ton, mais elle a l'air un peu agacée. Je ne suis pas prête. Il l'interrompt. Mademoiselle Marquet, je vous fais la plus grande faveur de votre vie en vous répondant non. Non ? Non. Une nouvelle année commence, il est temps de remonter à d'autres chameaux. Ça fait rire quelques élèves. Violette me lance un regard noir. Oui, elle est carrément furieuse. Je me souviens alors de l'accident. Violette et sa sœur au printemps dernier. Elle a survécu, sa sœur est morte. C'est pour ça qu'elle ne veut pas attirer l'attention. Monsieur Black passe le reste du cours à nous parler de sites qui pourraient nous plaire et qu'il faut absolument qu'on voit avant la fin de l'année. Les trucs touristiques habituels comme le parc historique de Connor Prairie, la maison de Levy Coffin, le Lincoln Museum et la demeure natale de James Whitcomb Riley. Même si on sait pertinemment que la plupart d'entre nous resteront dans ce trou jusqu'à la mort. J'essaie de croiser à nouveau le regard de Violette, mais elle garde la tête baissée. Elle se recroqueville sur sa chaise, les yeux dans le vague. À la sortie du cours, Gab Roméo me bloque le passage. Comme d'habitude, il n'est pas seul. Amanda Monk est postée juste derrière lui, une main sur la hanche, encadrée par Joe Wyatt et Ryan Cross. Le sympathique et cordial Ryan. Sportif, bon élève, délégué de classe. Le pire chez lui, c'est qu'il sait exactement qui il est depuis la maternelle. Gros merdeau dégaine. Que je te reprenne pas à me regarder comme ça. Je ne te regardais pas. Crois-moi, il y a des centaines d'autres choses dans cette salle que je préférerais regarder avant de daigner poser les yeux sur toi. Y compris le gros cul nu de Monsieur Black. PD. Romerdo et moi, nous sommes ennemis jurés depuis le collège. Il m'arrache mes livres des mains, et même si c'est une intimidation du niveau CP, je sens une grenade familière de haine se matérialiser au creux de mon estomac. Sa fumée toxique envahit mes poumons, me remonte dans la gorge, exactement la même sensation que j'ai éprouvée l'an dernier, juste avant de soulever un bureau et de le jeter. Non pas sur Gros Merdeau, comme il se plaît à le croire, mais sur le tableau noir de la salle de Monsieur Guiry. T'as plus qu'à les ramasser maintenant, pétasse. En passant, il me flanque un gros coup d'épaule. J'ai bien envie de lui enfoncer la tête dans son casier, puis de plonger la main dans sa grande gueule pour lui arracher le cœur, parce que le truc, quand je viens de me réveiller, c'est que je ressens tout plus fort. Comme pour rattraper le temps perdu. Mais à la place, je compte jusqu'à 60, en me forçant à sourire bêtement. Je ne serai pas collée, je ne serai pas virée, je vais rester calme, je vais me taire, je suis très, très, très sage. Monsieur Black observe la scène depuis le pas de la porte. J'essaie de lui adresser un signe de tête détaché pour lui montrer que tout va bien, que tout est sous contrôle, pas de problème. Je n'ai pas les mains moites, je n'ai pas le sang qui bat aux tempes, circuler, il n'y a rien à voir. Je me suis fait la promesse que cette année ne serait pas comme les précédentes. Si je parviens à garder un train d'avance sur tout, y compris sur moi-même, je devrais pouvoir rester bien présent, ici et maintenant, et pas seulement à moitié là. Il ne pleut plus. Avec Charlie, on est sur le parking, assis sur le capot de sa voiture, à discuter de ce qu'il aime le plus en dehors de lui-même, le sexe. Notre amie Brenda nous écoute, serrant ses livres sur sa très généreuse poitrine. Ses cheveux aux mèches rouges et roses brillent sous le soleil délavé de janvier. Pendant les vacances de Noël, Charlie a bossé au cinéma du centre commercial. Il a, paraît-il, fait entrer sans payer toutes les filles un peu mignonnes, ce qui lui a valu encore plus de succès que d'habitude. Dans la rangée du fond, réservée aux handicapés où les fauteuils n'ont pas d'attaque-coudoir. Et toi, me demande-t-il ? Quoi, moi ? Ça fait quoi ? Je me suis baladée et comme j'avais pas envie de venir en cours, j'ai pris ma caisse et j'ai roulé. Je ne peux pas expliquer mes brusques sommeils à mes amis. Et même si je pouvais, ce ne serait pas la peine. L'un des trucs que je préfère avec Charlie et Brenda, c'est que je n'ai pas à leur donner d'explication. Je vais, je viens et... Tiens, voilà Finch. Charlie hoche la tête. Il faudrait vraiment que tu tires un coup. Il fait sans doute référence à l'accident du clocher. D'après lui, si je couche, je n'aurai plus envie de me suicider. Pour Charlie, tirer un coup, c'est la solution à tout. Si tous les grands dirigeants du monde avaient une vie sexuelle satisfaisante et régulière, il n'y aurait plus de problème sur cette planète. Brenda le dévisage, sourcils froncés. T'es qu'un porc, Charlie. Tu m'adores. Dans tes rêves, prends exemple sur Finch. Lui, c'est un gentleman. Rares sont les personnes qui diraient ça de moi. Mais l'avantage dans cette vie, c'est qu'on peut être quelqu'un de différent aux yeux de chacun. Je préfère rester en dehors de ça, dis-je. Bren secoue la tête. Non, sérieux, les gentlemen sont en voie de disparition. Comme les vierges ou les léprochaunes. Si un jour je me marie, j'en épouserai un. Je ne peux pas m'empêcher de répliquer. Quoi, une vierge ou un léprochaune ? Elle me donne une tape sur le bras. Il y a une différence entre un gentleman et un gars qui n'a aucune vie sexuelle. Charlie me désigne du menton. Sans vouloir te vexer, mec. No offense, je réplique. C'est vrai, après tout. Comparé à lui, en tout cas, En fait, il veut dire que j'ai pas de chance avec les femmes. Sûrement parce que je craque toujours pour des salopes, des folles ou des filles qui font semblant de ne pas me connaître quand il y a du monde autour. Enfin bref, de toute façon, je ne les écoute plus car, par-dessus l'épaule de Bren, je viens de l'apercevoir. Violette. Je suis en train de tomber grave amoureux, je le sens. Et ce n'est pas la première fois. Suze Haynes, Layla Coleman, Annalise Lakem, les trois Brianna. Tout ça parce qu'elle m'a souri. Mais putain, quel sourire. Un vrai sourire, ce qui est rare de nos jours. Surtout quand on est moi, Théodore Frick, le taré de service. Bren se retourne pour voir ce que je fixe comme ça. Elle secoue la tête avec une grimace de dégoût qui fait que d'instinct, je me protège le bras. Bon sang, vous êtes tous pareils, vous les mecs. À la maison, ma mère discute au téléphone tout en décongelant l'un des petits plats que ma sœur Kate prépare en début de semaine. Elle me fait signe sans interrompre sa conversation. Kate dévale les escaliers, attrape les clés sur le bar et lance « À plus, loser !» J'ai deux sœurs, Kate qui a un an de plus que moi et Deka qui a 8 ans. C'est un accident, évidemment, ce qu'elle a découvert aux alentours de 6 ans. Enfin, tout le monde sait bien que dans la famille, la véritable erreur de parcours, c'est moi. Avec mes semelles mouillées qui couinent sur le sol, je monte m'enfermer dans ma chambre. Sans même regarder la pochette, je mets un vieux vinyle sur la platine que j'ai dénichée au sous-sol. Le disque saute et grésille, comme sur un vieux phono d'avant-guerre. Je suis dans ma phase split ends, d'où les baskets. Je m'essaie en Finch des années 80 pour voir ce que ça donne. Je sors une clope et fouille dans mon bureau à la recherche d'un briquet, quand je me rappelle soudain que le Finch des années 80 ne fume pas. Putain, je le déteste, ce morveux trop clean avec ses cheveux courts et sa nuque bien rasée. Je laisse la cigarette entre mes lèvres sans l'allumer, en m'efforçant d'aspirer la nicotine. Je prends ma guitare, je gratte 3 accords et j'abandonne. Je m'assis devant l'ordinateur, à califourchon sur ma chaise retournée. C'est la seule position dans laquelle je peux écrire. Je tape. 5 janvier. Méthode, clocher du lycée. Probabilité de réussite sur une échelle de 1 à 10, 5. Chiffre, le taux de suicide par saut dans le vide augmente à la pleine lune et les jours fériés. Information historique. L'un des plus célèbres suicidés ayant utilisé cette méthode est Roy Raymond, le fondateur de la marque de lingerie Victoria's Secret. Information complémentaire. En 1912, un dénommé Franz Reichelt s'est jeté du haut de la tour Eiffel avec une combinaison parachute qu'il avait lui-même conçue. Il a sauté pour tester son invention, pensant voler. Hélas, il est tombé comme une pierre et s'est écrasé au sol, creusant un cratère de 15 cm de profondeur. Avait-il l'intention de se tuer ? J'en doute. À mon avis, c'était juste un crétin crâneur. Une rapide recherche sur Internet m'apprend que seuls 5 à 10% des suicides sont commis en sautant dans le vide, selon John Hopkins. Apparemment, cette méthode est choisie pour des raisons pratiques, ce qui explique la popularité de San Francisco avec son Golden Gate Bridge, la destination la plus courue au monde en matière de suicide. Ici, nous n'avons que la Purina Tower et une colline de 387 mètres de haut. J'écris. Raison ayant empêché le passage à l'acte. Trop dégueu, trop voyant, trop de monde. Finch est un personnage à la santé mentale fragile, qui malgré ses propres faiblesses, va tenter tout au long du roman d'aider Violette à remonter la pente. Parce qu'il est parfois plus simple d'aider les autres que de s'aider soi-même. Nous étions donc sur le roman « Tous nos jours parfaits » de Jennifer Niven, qui est disponible chez Gallimard Jeunesse. Ce roman a été adapté en film en 2020 et est disponible en streaming. Vous pouvez toujours retrouver les 2 émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr. Nous nous retrouverons pour une nouvelle découverte la semaine prochaine. Une découverte qui nous plongera dans l'univers au-delà de notre atmosphère. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G. www.radio-g.fr